Le réveil avec Radio Kati, c'est une session d'information en français, en swahili, en kiluba, en kikongo et en lingala. C'est aussi des synthèses de l'actualité africaine et internationale, la revue de la presse chinoise et du sport. De 5h à 9h, découvrez qui a fait quoi, à qui, quand, où, comment et pourquoi, avec la session d'information de la matinale de Radio Kati. Lorsque le jour se lève à 5h, Radio Kati met le Congo à la une de ses ondes. La matinale de Radio Kati, c'est de lundi à vendredi de 5h à 9h, heure de Kinshasa.
La commission électorale indépendante poursuit le déploiement du kit électoral dans les provinces, ce dans le but d'actualiser le fichier électoral. Cependant, certains centres d'instruction pourront être et d'autres ont été installés à une distance obligeant les requérants à parcourir des kilomètres pour y arriver. Alors, quels sont les critères qui interviennent dans la détermination et dans la localisation des centres d'instruction, Monsieur Ara Kalindi?
Oui, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Au fait, pour la détermination des centres d'inscription à travers tous les pays, nous avons en résumé trois critères. Le premier, c'est que nous faisons tout pour que, au niveau de chaque circonscription électorale, il y en ait au moins un centre. Okay. Voilà. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, ce que nous considérons la distance, c'est-à-dire si une circonscription électorale a une superficie égale ou supérieure à 2500 km², on ajoute à cette circonscription un CI, un centre d'inscription additionnel. Alors, le dernier critère, c'est le critère densité de la population, de requérants. Nous considérons également la densité de la population dans la circonscription électorale. Et pas toute la population, mais la population d'électeurs. Voilà. Et en tenant compte de la capacité maximale d'enregistrement d'un centre par mois et pendant 3 mois.
Voilà, mais et comment vous allez évaluer tout ça? Par exemple, vous arrivez dans un terrain ou une province où, bon, peut-être c'est par rapport à l'expérience des élections de la fois passée. Prenons le cas, par exemple, du Bas-Congo. Dans quelle partie vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'électeurs et combien de centres ont été installés là-bas?
Ok, nous avons des estimations. Nous partons des électeurs qui étaient enregistrés en 2005-2006, mais nous savons aussi que par rapport à ce moment-là et à la date d'aujourd'hui, ce nombre-là n'est plus le même, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de nouveaux majeurs qui entrent dans cette population-là. Donc nous avons ces critères-là. Alors, il y a un taux d'accroissement que nous calculons à partir des électeurs enregistrés en 2005 et nous arrivons à un chiffre que nous répartissons au niveau de chaque province. Et donc nous avons ça, c'est un chiffre indicatif qui nous aide à avoir une idée sur la population d'électeurs dans une entité donnée. Et à partir de ça, nous pouvons déterminer combien de centres d'inscription il faut pour une circonscription électorale qui a déjà un centre d'inscription, parce que là, c'est une condition sine qua non. Mais si par rapport à la capacité d'absorption de notre centre, nous remarquons que le nombre d'électeurs nous exige qu'on augmente un CI additionnel, on le met.
Donc, c'est que vous avez des équipes. Vous avez des gens qui vont faire des études au préalable pour déterminer que voilà, dans telle localité, il y a beaucoup plus de gens par rapport à une autre.
C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que nous avons des chiffres des requérants qui étaient enregistrés en 2005. Ça, nous avons dans notre base.
Et comment
donc,
vous le faites?
Nous n'allons pas chercher ailleurs. Nous avons ces chiffres-là. Mais par ailleurs, nous avons les taux d'accroissement de la population. Nous avons des experts démographes dans notre... nous appliquons ces taux d'accroissement à la population et nous pouvons estimer la population de nouveaux majeurs qui vont s'ajouter chaque année dans ces 25 millions d'électeurs. Et cela par province, par territoire, jusqu'au niveau le plus bas. Vous comprenez? Donc ça, c'est un calcul technique. On n'a pas besoin de l'exposer ici. Mais c'est ça le processus. Ouais. Nous avons des experts démographes qui arrivent à déterminer au niveau de chaque entité qui est une circonscription électorale, nous donner une idée sur les électeurs attendus dans cette entité-là. Et sur base de ces électeurs attendus, nous calculons, nous pouvons nous dire, ok, dans cette circonscription électorale, en plus de ce CI que nous avions, parce que c'était une circonscription électorale, il faut en ajouter un ou deux. Voilà.
On a subi d'ailleurs dernièrement certains auditeurs poser la question de savoir, mais si ça aurait été intéressant si on avait d'abord procédé au recensement, au dénombrement de la population. Là, on aurait des données exactes et sur base desquelles on peut maintenant faire cette répartition.
Tout à fait, vous avez raison. Il faut faire le recensement. Malheureusement, dans notre pays, nous n'avons pas cette culture de recensement. Parce que dans des pays avancés, chaque 5 ans, chaque 10 ans, il y a un recensement général de la population. Mmh. Mais comme vous le savez, chez nous, le dernier recensement scientifique qui a eu lieu dans ce pays, c'est en 1984. Et ça fait bientôt donc plus de 20 ans. Ces chiffres-là, selon nous, les démographes, sont déjà. On ne peut pas partir de cette base pour continuer à appliquer un taux d'accroissement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, entre temps. Mmh. D'où, c'est ce que je vous dis, nous, à la CI, nous avons beaucoup de schémas, de scénarios. Oui. Et comme je devais vous dire, le premier scénario, c'est que nous avons une base de 25 millions d'électeurs qui est beaucoup plus récente par rapport à la base de 1984. Mmh. Vous comprenez ? C'est 2005-2006. Alors, de 2005-2006 à 2010, ça fait à peu près 4 ans, hein, 6 ans. Donc là, ça va. Oui. On peut partir de ces données-là pour essayer d'apprécier.
Tout à fait.
Mais voilà, c'est un peu ça la problématique.
Ouais, j'imagine que le grand nombre d'électeurs sont concentrés dans les grands centres urbains.
Tout à fait. Vous connaissez notre pays. C'est vrai que, d'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que il y a à peu près plus de 80% de la population qui vit dans le milieu rural.
Mmh.
Mais on sait aussi que de ce qu'on appelle...
Plus de 80%.
Oui, plus de 80%. Mais on sait aussi que les gens ont tendance à quitter le milieu rural pour venir dans le milieu urbain,
oui,
à la recherche de tout ce que vous connaissez, les conditions économiques, on recherche le mieux-être.
Oui.
Et on pense que le mieux-être se trouve dans les centres urbains.
Mmh.
Alors cet exode rural-là, c'est que dans les milieux urbains, il y a, dans la plupart des cas, beaucoup de requérants.
Mmh.
Il y a donc une concentration de la population par rapport à l'espace, ce que nous appelons la densité. Donc, par rapport à l'espace, la concentration est plus forte dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux.
Donc, vous étiez en train de parler des trois critères qui interviennent, vous pouvez encore le rappeler.
Oui, je disais que le premier critère, c'est que chaque circonscription électorale doit avoir un centre d'inscription. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un processus où nous préparons les élections locales et les élections présidentielles, législatives, etc.
Mmh.
Donc, pour ça, nous devons reconstituer la population au niveau de chaque circonscription électorale. Quelle est la circonscription électorale? C'est le groupement, comme vous le savez, en milieu rural. C'est la commune dans les milieux urbains. Okay? Donc, nous devons reconstituer cette population à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que nous disons au moins un centre d'inscription par circonscription électorale. Ça, c'est le premier critère.
Okay.
Alors, comme je vous disais, le deuxième, c'est que par rapport à ça, bon, nous voyons la densité de la population. Hein, d'accord ? Si une circonscription électorale a une population telle que notre absorption maximale d'un centre de permettre est en deçà de cette population, nous augmentons, nous en discutons un CI additionnel.
Bien sûr.
Ok,
oui.
Voilà. Donc, le troisième critère, c'est le critère d'espace. Donc, pour une circonscription qui a plus de 2500 km, qui a 2500 km ou plus, ok, nous ajoutons un CI, un centre d'inscription additionnel. Voilà les trois critères.
Donc,
évidemment, là, pour l'espace, dans notre méthodologie, nous tenons compte, nous voulons que les électeurs ne parcourent pas de longues distances pour atteindre le centre d'inscription.
Oui, c'est sûr. Ça.
Voilà. Mmh. Et nous avons, nous disons, une moyenne à peu près de 30 km. Mais comme vous le savez, une moyenne reste une moyenne. Il y a les extrêmes. Et puis ensuite, vous connaissez notre territoire. Donc, nous reconnaissons qu'il y a des endroits où les électeurs vont au-delà de 30 km. Et alors pour...
Et c'est pénible, hein?
C'est pénible. Alors pour répondre à ça, pour aider nos papas, nos mamans, etc., à...
Qui doivent parcourir des longues distances.
Voilà. Et nous donnons une période relativement longue pour l'enregistrement des électeurs. Nous disons 3 mois. Parce que nous savons qu'une maman, pour quitter un village X, aller se faire enrôler dans un village, dans un autre village qui se trouve à 20 km, à 10 km, je ne sais pas, de là où elle est, elle doit marcher. Et donc, nous disons, il faut qu'elle ait le temps.
Mais pourquoi la CI ne mettrait pas en place des équipes mobiles qui vont bouger dans les coins inaccessibles?
Oui, il y a beaucoup de contraintes au fait que les gens ne s'imaginent pas pour la CI.
Oui.
Vous savez, un centre d'inscription coûte plus de 10 000 $. Et ensuite, les matériels que nous utilisons, c'est des matériels sensibles. Si nous disons, nous appliquons l'itinérance, c'est-à-dire nous devons déplacer l'équipe et autres, c'est un matériel sensible, un matériel informatique. Mm-hmm. Et puis les conditions, le relief de notre pays ne nous permet pas de le faire aisément.
Alors, il y a des coins qui sont enclavés, accéder facilement.
Pour les déplacer d'un village X au village Y, il faut les transporter sur les têtes avec tous les risques.
Les pirogues, tout ça.
Exact, donc vous avez compris. Alors, tous ces éléments-là font que, bien qu'ayant la bonne volonté de vouloir rapprocher les centres le plus près possible de l'écran, mais par moment, nous avons ces contraintes-là qui font que nous disons, ok, nous demandons à la population un petit sacrifice. Ouais, elle doit comprendre que nous voulons bien servir la population, mais il y a d'autres contraintes qui sont au-delà de notre attendement. Et le relief de notre pays est tel que c'est un peu compliqué pour amener tout ce matériel tout près de la population.
C'est un pays continent. Les questions, des réactions, composez les 081-800-63-94.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 2h, et mercredi de 10h, heure de Kinshasa.
Voilà, nous parlons aujourd'hui des critères de détermination et des localisations des centres d'inscription. C'est par rapport à l'opération de révision du fichier électoral qui s'est poursuit à travers le pays. Et nous recevons aujourd'hui M. Ara Kalendi, coordonnateur de la cellule technique chargée du suivi des opérations à la CEI. Alors parlons à présent de la localisation des centres. À quel endroit les centres d'inscription doivent être installés?
Ok, à quel endroit les centres d'inscription doivent être installés dans une circonscription électorale? Alors, je suis dans un groupement. La première préférence, c'est que, étant donné que nous sommes dans une entité où il y a un chef de groupement, nous pensons que tous les villageois, tous les Congolais ont tendance à aller vers ce monsieur-là pour des formalités administratives ou beaucoup de choses. Donc, la première préférence, c'est de mettre le centre au chef-lieu du groupement. Bien. Mais il n'y a pas que ça, parce que vous savez, nos centres sont logés dans les écoles. Donc, la première chose que nous faisons l'inventaire de toutes les écoles de la République pour nous permettre de voir où nous pouvons commencer pour installer notre centre. Donc, dans un groupement où il y a des écoles, la priorité c'est de voir où se trouve cette école. Si cette école n'est pas au chef-lieu, mais elle est à, c'est pas moi, 10 km du chef-lieu, nous discutons avec les connaisseurs du terrain de ce groupement pour dire, ok, cette école se trouve à tel endroit, c'est quelle position? Nous préférons la position médiane. Alors, en accord avec les proverbes, les sous-proverbes qui gèrent les écoles dans les différents territoires, on s'assied et on essaie d'apprécier le positionnement de cette infrastructure par rapport à... Voilà. Et nous prenons l'école qui occupe la position médiane dans la circonscription électorale.
Donc, l'école qui est installée à un endroit où tout le monde peut venir facilement.
Exact. Voilà. Mais s'il y a une école au chef-lieu du groupement, la préférence, c'est là-bas. Mais c'est après concertation avec les gens qui sont sur le terrain, qui connaissent très bien le coin et qui peuvent nous dire, voilà, il y a autant de villages qui sont dispersés de la manière suivante. Nous vous proposons que le centre soit installé à tel endroit. Donc là, il n'y a pas un critère, fixe, mais c'est un critère qui découle de la discussion qu'on a menée avec les hommes du terrain. Et comme je vous dis, c'est la position médiane qui prime, mais aussi le chef-lieu du groupement. Et encore une fois, l'infrastructure, parce que nous logeons nos matériels dans les écoles.
Ça, c'est encore,
Une contrainte.
c'est une grande question, les infrastructures.
Voilà. Alors, comment on
beaucoup d'écoles aujourd'hui n'ont pas de toitures, il n'y a pas de bancs, tout ça. Je me demande comment la CI va s'y prendre.
Non, ben, nous avons fait l'opération au Bas-Congo. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé, donc nous avons cette expérience-là. Oui. Nous faisons ce qu'on appelle le repérage. Ça veut dire, avant d'installer le centre dans une école, on vérifie si effectivement l'école en question remplit toutes les conditions de sécurité. C'est-à-dire, et ça ne doit pas être exposé aux intempéries, quand il pleut, etc., comme vous l'avez dit. Donc, on choisit une école qui peut protéger nos matériels. Ça, c'est comme ça. Et si l'école n'est pas en mesure de protéger en termes de, il n'y a pas de toiture ou bien les nuits, je ne sais pas ça comment,
oui.
En ce moment-là, nous demandons au chef de groupement de nous aider à construire une cabane qui peut abriter...
Au sein de l'école?
Non, non, au sein du groupement.
Okay.
Voilà. C'est-à-dire, et là, en fait, je vais un peu trop vite, c'est que là où il n'y a pas d'école,
mm-hmm.
parce qu'il y a des groupements aussi qui n'ont pas d'école.
Qui n'ont pas d'école, ça c'est
exact. Mm-hmm. Là où il n'y a pas d'école, nous demandons à l'autorité locale, qui est le chef de groupement, de nous aider à construire une cabane. Ou alors à trouver.
Mais s'il n'a pas de moyens pour construire une cabane.
Non, bon, ok, les moyens, c'est vrai, il n'y en a pas toujours au Congo, mais
oui.
Vous savez, il y a la main-d'œuvre. Les villageois sont parfois. Formidable, hein? Ça je peux vous donner le secret. Il y a des villageois parce que avec cet esprit patriotique, il y en a qui donnent leur service gratuitement au chef de groupement. Donc ça dépend des relations que le chef de groupement a avec ce sujet.
Mm-hmm.
Oui. Alors donc ça dépend de tous ces éléments-là. Mais aussi le chef de groupement, s'il voit qu'il n'y a pas d'infrastructure scolaire, nous pouvons aussi cibler un centre de santé, s'il existe.
Non, une église.
Bon, une église n'est pas. Non, c'est un lieu qui n'est pas autorisé.
Qui n'est pas autorisé.
Ouais, voilà.
Voilà. Alors, monsieur Lara, vous êtes suivi de partout à travers le pays. Là, par exemple, nous avons un auditeur qui nous appelle depuis Bounia, dans la province orientale, en Ituri. Il s'appelle Didier Kaloukoula. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kaku.
Oui, Didier, on vous écoute.
Oui, parce que l'invité est en train de parler des problèmes de paiement des titres électoraux. Je voudrais tout simplement souligner quelque chose. Moi, j'ai vu à peine des retours vers Izio, alors que quand je constate dans le territoire de Wamba, il n'y a même pas une route qui quitte Izio pour Wamba et comment est-ce qu'on peut déployer tous ces matériels-là, alors que même au niveau de Wamba, il n'y a même pas un aérodrome. Si vous quittez Kisangani, arrivez à un endroit plus gagnant, en tout cas, il n'y a pas. Quand vous quittez Nyanya, s'il vous plaît, pour Wamba, ça fait presque 111 km. Et quand vous quittez 111 km pour Izio, ça fait pas plus ou moins 220 à 230. Mais il n'y a rien de spécial. Comment se peut déployer tout ce matériel à cet endroit-là?
Merci.
Parce que moi, je suis originaire de la mer, de la ville de Bounia.
Voilà, merci beaucoup à Didier Kaloukoula. Nous avons également en ligne Norbert Dibelay depuis Mbujimayi. Bonjour. Excusez-nous, c'est Dibelay de Kananga. On vous écoute.
Oui, je voulais poser la question à l'invité. À part les écoles, est-ce qu'il y a aussi des centres où on peut aller donner les centres dans des églises, voyez, dans des églises, dans des parcelles des gens, à part les écoles? Alors, deuxième préoccupation. Voilà. Si la raison que l'école ne remplit pas l'école, qu'est-ce qu'on fait? On est là, dans une école, mais l'école ne remplit pas l'école.
Merci Norbert. Monsieur R. Kalindi, vous avez la parole.
Merci. Oui, par rapport à la première question sur le déploiement des kits dans les milieux inaccessibles, dans les milieux où il n'y a pas de route, comment faire?
Zéro jusqu'à Wamba.
Jusqu'à Wamba, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Comment faire? Ça, c'est un grand défi. C'est un défi, mais comme je disais encore une fois, ce n'est pas la première fois que nous organisons ces élections. En fait, le déploiement s'est fait primo avec l'aide de la MONUSCO, qui amène nos matériels des centres, comme on appelle les hubs, jusqu'au niveau du territoire, ce que nous appelons les sites de formation.
Mmh.
Oui, et on parachute les choses là-bas par hélico, par tous les moyens que dont dispose la MONUSCO. À partir de sites de formation, la CI prend le déploiement en charge. Comment? En utilisant ce que nous appelons les présidents de centres d'inscription, qui viennent de différents coins du groupement. Ils sont venus suivre la formation au centre, au site de formation.
Ils peuvent venir par un vélo, alors, à pirogue.
Alors, comment ils font pour amener ce kit matériel jusque à l'école où il va travailler, qui se trouve, je ne sais pas, à Wamba, quelque part là-bas.
Oui.
Eh bien, ce monsieur-là utilise tous les moyens possibles. Les porteurs, les vélos,
On utilise tous les moyens possibles. Et il y a des pirogues qu'on utilise. C'est pour ça que je vous dis que le système d'itinérance, hein, c'est un système difficile que nous n'arrivons pas à appliquer à cause de toutes ces contraintes-là. Mais ce que je peux dire, les Congolais que nous sommes, moi je dis que nous sommes patriotes et je félicite les Congolais parce que dans ces milieux-là, vous trouvez des villageois qui acceptent de prendre les mâles qui contiennent
les volontaires.
Les volontaires, oui. Donc, dis-moi, il y en a quelque chose, mais ça ne représente rien par rapport au service qu'ils rendent à la nation. Donc moi, j'ai dit, c'est un sentiment patriotique à louer. Et donc, j'ai dit à notre
Didier
que moi, j'apprécie le courage et le dévouement des Congolais dans ces déploiements. Parce que il faut tout et il faut arriver, le kit arrive jusqu'au niveau le plus bas possible,
le plus reculé
du pays. Et grâce à la volonté, au dévouement de la population qui transporte, je vous dis, par la tête, les porteurs, nous utilisons les porteurs, nous utilisons tous les moyens, les vélos, etc.
Ça me rappelle encore l'époque où les explorateurs venaient et il y avait également des villageois qui portaient leurs valises et autres sur la tête. Alors, par rapport à la question de Norbert de Kananga,
oui, qui parlait de la localisation.
Des églises ou des parcelles.
Oui, voilà. J'ai dit que nous avons des conditions pour installer nos centres d'inscription. Nous ne les installons pas dans les églises, dans les bars, non. Nous avons des conditions, donc la préférence c'est les écoles ou les centres de santé, vous comprenez? Ou, c'est ce que je dis, dans un milieu où il n'y a pas tout ça, nous demandons au chef de groupement, c'est-à-dire à l'autorité locale, de nous aider à trouver, c'est-à-dire en construisant une cabane ou quoi. Même les bureaux de vote, c'est la même chose.
C'est la même chose.
Oui.
Fabrice Poulounou nous appelle depuis Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Ma préoccupation est celle-ci. Moi, je suis étudiant à l'université de Mbandaka. Depuis tout ce temps-là, on ne nous a pas enrôlés. Mes études sont presque à la fin. Je dois quitter Mbandaka pour aller continuer ailleurs, prenant la province de Bakongo, là où je dois continuer mes études. Là, on a clôturé les opérations d'enrôlement. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai droit au vote, je dois voter. Mais comme je ne suis pas enrôlé, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas aussi de moyens pour quitter encore Bakongo, revenir à Mbandaka ou dans la province où on n'a pas encore enrôlé. Qu'est-ce que je peux faire?
Merci, monsieur.
Ok, merci pour la question. Ok, notre étudiant dit qu'il est à Mbandaka et comme les opérations d'enrôlement n'ont pas encore commencé à Mbandaka, s'il quitte là-bas, il vient au Bakongo où on a terminé l'enrôlement, que faire? Au fait, ça c'est une question très complexe et délicate parce que on ne peut voter que là où on s'est fait enrôler. Ok? Parce que vous devez émerger sur la liste. Et donc, c'est ce que nous disons. S'il est à Mbandaka et que, en principe, s'il est à Mbandaka et que pendant que nous allons commencer les opérations d'enregistrement d'électeurs à Mbandaka, il est encore là, on va lui délivrer la carte. Mais si, immédiatement après, il quitte Mbandaka avec les cartes, mais pour voter, il lui faudra rentrer à Mbandaka.
Oh, mais c'est très
donc, il ne sera pas voté au Bakongo.
Oui.
Oui. Parce qu'il doit émerger sur la liste.
Oui.
Oui. C'est pour ça que nous disons, maintenant, la révision de tout ce que nous faisons, c'est pour justement aider les gens qui ont changé d'adresse. Hein? Nous disons, les gens qui changent d'adresse sont concernés par la révision du fichier. Évidemment, c'est tout le monde. C'est pour permettre aux gens qui sont dans un milieu et qui détiennent la carte de se faire. Si vous êtes au Bas-Congo aujourd'hui, vous avez été enrôlé à Kinshasa, mais vous voulez voter au Bas-Congo, il faut aller vous faire enrôler au Bas-Congo. Alors, si le monsieur qui est à Mbandaka, il arrive après l'arrivée de l'électeur au Bas-Congo, je ne sais pas, il va arriver au mois de septembre ou au mois d'octobre, eh bien, il ne va pas émerger sur nos listes lorsque le vote interviendra.
C'est un peu compliqué.
Ouais.
Mais, César Katanga nous appelle de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, César.
Bonjour, je vous écoute, monsieur le journaliste.
Oui, posez votre question.
J'avais une certaine préoccupation par rapport à ce que notre invité est en train de dire. Une question est celle-ci. Effectivement, on dit que nous allons retrouver la paix. Je ne sais pas si nécessairement les gens de la paix ont tenu compte de certaines zones à l'heure de paix qui continuent à être dans l'insécurité. ne sais pas, parce que c'est la bonne parler sur les critères, sur la détermination des centres d'identification. Est-ce qu'ils ont pris quand même certaines précautions pour pouvoir sécuriser certains habitants, prenant les cas de ceux-là qui sont à l'est, pour mieux les aider à ne pas tomber dans le siège des ennemis, puisque toutes les parties de l'est ne sont pas sécurisées. C'était ça ma question.
Merci beaucoup. Monsieur Ara.
Oui, la CI n'a pas dans ses attributions la sécurisation de la population. C'est l'État congolais qui doit sécuriser la population congolaise. Alors, si dans un territoire donné, la sécurité est telle que nous ne pouvons pas faire nos opérations, nous ne les faisons pas. Donc, c'est une condition sine qua non. Avant d'aller faire les opérations dans un territoire, l'État doit assurer que la population de ce territoire-là est capable de venir nous rencontrer dans nos centres d'institution pour faire l'enregistrement.
Paisiblement.
Oui. Et puis, nous ne pouvons pas non plus aller installer nos centres dans des endroits où les pales sont en train de tirer. C'est impossible.
Mmh.
Ouais, ça, c'est contre le droit humain. Nous ne pouvons pas exposer non plus nos populations. C'est-à-dire, on tue les gens quelque part et nous venons avec nos matériels et nous demandons quand même à la population de venir. Non, ça ne peut pas se faire.
Mmh.
Donc, ce qui se fait, c'est quoi? C'est que l'État doit sécuriser la population. Et avant qu'on amène une opération dans un territoire, nous devons être sûrs que cette population-là est capable de se mouvoir pour venir se faire enregistrer. C'est tout ce que je peux dire.
Voilà. Oui. Merci beaucoup, Ara Kalindi, coordonnateur de la cellule technique chargée du suivi des opérations à la Commission électorale indépendante. Nous vous disons merci et à la prochaine.
Merci.